C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Et on va parler de cinéma avec Joël Prudhomme. Joël, tu as vu un film, je l'ai vu moi aussi. On peut parler donc de Montréal, ma belle, de Yodhan Tra. Oui.
Eh bien, tout d'abord, deux choses. J'ai adoré, c'était comme ma mission là, du mois d'aller voir Montréal, ma belle. Puis je me sentais comme une Nathalie Petrovski. J'ai tout aimé de tout ça. J'aimais ça, je me sentais comme une bonne critique culturelle. Mais je dois dire que ça a été un défi d'aller voir Montréal, ma belle, pour des meilleures raisons. Parce que deux fois plutôt qu'une, il était complet.
Ah
Fait
ben
qu'il a fallu,
voyons.
ouais, il a fallu que je fasse trois tentatives pour y aller. Puis avec mon horaire, c'était compliqué. Fait que Montréal, ma belle, mais à chaque fois, j'étais très heureuse. Tu sais, c'est comme, je voyais que c'était complet, puis j'étais comme, ah oh, zut, mais ah oh, youpi! Youpi pour le cinéma, mais. Donc, heureusement, j'ai pu y aller la troisième fois. Et sincèrement, un beau coup de cœur pour ça, parce que c'est un film. J'ai pris des petites notes ici. C'est un film que je dis rafraîchissant, dans le sens où il y a beaucoup de plafonds de verre qui ont été brisés avec ce film-là. En résumé, dans le fond, c'est l'histoire. C'est donc une immigrante chinoise qui vit à Montréal, qui est mère de famille dans une relation hétéro. Elle ne parle pas français au début du film. Donc, on voit aussi tous les défis liés à l'immigration, la francisation qui est compliquée. Donc, c'est vraiment des sujets auxquels on touche. Et puis finalement, elle a envie de s'émanciper, de vivre une romance. Et donc, le film, c'est une romance avec une Québécoise beaucoup plus jeune, très, très, très différente. Les deux femmes sont quasiment à leurs opposés. Et c'est ça que je trouve vraiment nourrissant dans le film. La force du film, selon moi, c'est la nuance du personnage principal. Il y a quelque chose de magnifique dans sa pudeur qui switch à l'audace. Comme dans son jeu, il y a quelque chose de timide, puis en même temps de très frontal. Le fait que les deux cohabitent dans le même personnage, je trouvais ça vraiment beau à voir. On peut comme sentir toute sa bataille interne. On peut sentir à quel point il y a du vécu, puis il y a de la retenue, puis il y a comme une vie entière de limites qu'elle doit passer à travers. C'est magnifiquement joué, d'ailleurs, par la comédienne.
Oui, Joan Chen, qui est quand
Oui.
même une grande actrice chinoise. Et tu
Oui.
sais qu'elle ne parle pas français. Elle a dû l'apprendre pour le faire, ce film. C'est quand même génial, hein?
Ça, c'est incroyable. C'est des choses comme ça, quand j'entends des choses comme ça pour les comédiennes et comédiens, je salue tout le travail qu'il y a derrière. Puis, l'autre chose aussi qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est le fait que j'ai ressenti le regard de la réalisatrice, dans le sens où moi, je vois, je suis rendue une pro pour décerner quels films ont été faits par une réalisatrice par rapport à un réalisateur ou une personne queer en général. Puis celui-là, je trouve que ça paraît, je trouve que la façon qu'on peut s'en rendre compte, c'est dans toutes les scènes de sexualité qui sont douces, sensuelles, puis en même temps très, très, très belles. Il y a quelque chose dans la connexion des deux femmes, de tellement sincère dans leur relation. Puis tu sais, un film, on est comme rendu à l'heure où on est habitué de voir des séries, puis ça prend plusieurs heures d'écoute et tout ça, mais dans un film, c'est ironiquement devenu plus court. Puis, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à nous faire comprendre le lien entre les deux, la force des émotions, tout ça, pour moi, c'est une belle réussite, ce film-là, ouais.
Surtout qu'on explore cette sexualité, cette bisexualité dans certains cas, ce
Oui.
lesbianisme aussi dans d'autres, mais on l'explore d'un point de vue de l'immigration. C'est quand même tout un tabou dont on ne parlait pas. Alors, chapeau, hein, je le dis tout de suite, à la comédienne Joan
Oui.
Chen là, qui faisait Feng Jie. Et puis, et Charlotte Aubin, que j'ai beaucoup aimé. Ah oui.
Oui,
C'est un coup de cœur pour toi, ça.
magnifique dans ce
Ah oui.
film-là. Elle est attachante. Elle est douce, douce, douce. Puis on dirait qu'elle nous amène avec elle dans l'univers. On dirait qu'elle essaie de rassurer le personnage principal et nous en même temps. Il y a vraiment quelque chose de bienveillant chez le personnage. Puis je rajouterais, j'ai dit au début qu'il y avait des plafonds de verre qui ont été, tu sais, que c'était rafraîchissant. Mais aussi l'âge du personnage. Tu sais, le personnage a 53 ans. Puis encore une fois, des romances à l'écran passé 50 ans, il n'y en a pas assez. Je trouve que c'est beau aussi de voir que le désir continue, puis qu'il y a pas quelque chose qui meurt là, par rapport à l'amour ou le désir après des années. Fait que je trouvais ça le fun de voir une émancipation passée 50 ans, vraiment une femme qui cherche à redécouvrir sa liberté puis à redécouvrir qui elle est. Et ça, même après 50 ans, je trouvais ça magnifique.
Elle apprend le français en même temps qu'elle apprend son attirance ou qu'elle vit son attirance envers les femmes. C'est assez génial. Et
C'est
comme,
fou,
oui,
ouais.
et puis moi, j'ai vu ce film, j'ai même rencontré la réalisatrice dans une autre émission dans laquelle j'ai animé, Jiodan He, qui est elle-même immigrante. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle est ici et elle a reçu du financement pour ce film. Je trouve vraiment que tout est beau à propos de ce film-là. J'ai des petites
Oui.
réserves sur le jeu des enfants. Bon, c'est toujours difficile de faire jouer
Oui.
des enfants au cinéma, mais bon, on le reste à voir.
Oui, c'est comme le revers de la médaille d'essayer d'aller chercher vraiment des vraies personnes immigrantes. Parfois, on voit un petit peu des fois les nuances qui manquent un peu avec le jeu des enfants, effectivement, ou certains autres personnages secondaires, mais outre ça, ça m'a pas déstabilisé du film, là. J'ai vraiment embarqué à 100% dans ce film-là.
Bon, écoute, Joël, tu reviens un petit peu plus tard à l'émission. On va parler de tes coups de cœur et de tes coups de
Oui!
gueule.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Et c'est le temps d'aller à Québec pour rejoindre Brian de Saint-Louis. Brian, on a deux livres à présenter aujourd'hui. Saint-Nicolas des Marins d'Alex Mécan, qui chez Alto est tombé de la nuit de Maryse Andraos chez Triptyque. Ben, je te laisse commencer avec ton premier titre.
Ah, c'est là que tu venais choisir. On va commencer par le plus lourd des deux,
Ouais,
pourquoi pas.
ouais.
Saint-Nicolas des Marins, premier roman d'Alex Mécan, publié chez Alto. On est dans une. Ça me fait penser peut-être un peu à la pièce de théâtre. Il y a des thèmes un peu lourds dans ce livre-là. On est vraiment dans un conte pour adultes. On est dans un village un peu féerique. Un village qui est construit de façon normale, donc c'est-à-dire toutes les choses importantes sont au centre. En périphérie, on met les choses qui nous intéressent moins, dont un orphelinat. On reparlera de ça tout à l'heure. Au bord de l'eau, il y a un phare. Là habitent Nico et sa mère. En fait, sa mère, elle habitait là. Maintenant, elle est morte, entre guillemets. On l'a enterrée sous un amamélis, qui est un noisetier des sorcières. Ça aussi, ça a son importance. Elle est un peu sorcière. Lui a des mœurs un peu légères, compliquées, qui sont mal comprises par les gens du village. Il reçoit beaucoup de visites de marins qui vont le visiter dans son phare. Donc, il a une sexualité queer et il l'assume et rencontre tous ces marins-là. Et là, ben, la vie continue dans le village jusqu'au moment où il y a un gros froid qui s'abat sur cette ville-là. Tout à coup, tout le monde gèle, mais tout gèle au point où même la mort cesse d'exister. Donc là, les marins, par exemple, ont tenté de fuir le froid au moment où il arrivait. Ils ont sauté de leur bateau, sont restés pris dans la glace parce que la glace a gelé autour d'eux. Donc il y a juste le tronc qui sort, mais là, la mort n'existant plus, ils restent prisonniers là. Et là, Nico donc, va s'occuper de ses marins pendant tout le long du roman. Mais évidemment, ce froid-là, c'est une situation qui perturbe beaucoup le village, qui se met à chercher un bouc émissaire. Qui ça peut être, bien sûr, de mieux comme bouc émissaire que le fils de la sorcière aux mœurs un peu légères? Donc là, lui, il est dans son phare. Le village commence un peu à l'ostraciser. Et là, il va se faire rejoindre dans son phare par Prune, qui est la chef un peu des orphelins. Ils vont rassembler d'autres orphelins. Et là, c'est un peu une histoire de vengeance. Lui, dans son phare, avec ses orphelins, qui devient une espèce d'armée. Il a des contacts avec des gens du village quand même, dont un amoureux, le boucher, qui prend un petit peu plus de place dans l'histoire. Mais là, on est dans cette espèce de fable-là où il y a des êtres mi-morts, mi-vivants qui cherchent à se venger. C'est très particulier. On est dans une fable, on est dans un conte de fées pour adultes. Moi, je vous mentirais si je vous dirais que j'ai vraiment adoré cette histoire-là. C'est moins mon genre. Ça me fait penser un peu comme si Kev Lambert se mettait à écrire des contes de fées. C'est un peu ce genre-là. Il y a des scènes violentes. Par contre, c'est un livre qui est très bien écrit. Si vous aimez les livres à clés, les livres à symboles, il y a beaucoup d'analyses qu'on peut faire là-dedans. C'est l'histoire de. Il y a beaucoup de liens avec les situations qu'on vit maintenant dans l'actualité internationale. Donc, vraiment, là, les gens qu'on met de côté, les gens qu'on considère comme boucs émissaires d'une situation qui arrive, qu'on met de côté, qui se vengent, ça va créer un climat de violence. Donc, c'est une histoire assez particulière, mais c'est ça, pour la qualité de l'écriture, pour l'imaginaire, vraiment, c'est très intéressant. Juste moins mon genre à moi personnellement, mais si vous aimez ces histoires-là de contes de fées, de réinvention à découvrir, c'est son premier roman. Puis on va avoir hâte de voir comment cette plume-là va maturer justement, qu'est-ce qui va arriver par la suite là,
Si on ne publiait que des romans qui nous plaisent à toi et moi, ben, il n'y aurait pas autant de romans qui seraient publiés. Alors, ça fait partie
faut
de la réalité
découvrir
des
des choses,
choses.
mais c'est ça, de très belles qualités littéraires,
Oui.
vraiment, là, un livre à clé, comme je disais, beaucoup de symboles, beaucoup d'analyses à faire. Juste moins mon genre, mais je comprends que ça a quand même attiré beaucoup l'attention. Il y a eu d'excellentes critiques. Peut-être que ce sera tout à fait votre genre. Soyez tenté de lire. C'est un court roman quand même, donc ça vaut la peine de se lancer dedans juste pour le fun.
On va aller rapidement parce qu'on a bourré beaucoup de temps, mais Tombée de la nuit de Maryse Andraos, moi j'ai lu ça chez Triptyque, c'est très bien écrit.
Oui, voilà, dans la collection queer, ça va
Oui.
aller plus justement pour Maryse Andraos. L'histoire est moins complexe, c'est une histoire très classique. Une fille en rencontre une autre aux îles de la Madeleine, décide de former un couple ensemble lorsqu'ils reviennent à Montréal. Maryse souhaite l'amour, mais Marianne ne sont pas tout à fait au diapason sur absolument tout. Donc, c'est une histoire assez classique. Elle réfléchit, qu'est-ce qui ne va pas? Il voit des liens avec une histoire avec sa sœur qui n'a jamais été réglée. Elle rencontre sa petite, en parle à ses amis. Mais c'est ça, l'histoire est très classique, mais c'est très bien écrit.
Ah oui.
Ça met en avant une romance lesbienne qu'on n'en voit pas assez dans notre littérature quand même. Je parle très peu de livres où il y a beaucoup de lesbiennes. Les filles écrivaient plus. Mais c'est ça pour la plume. C'est très bien écrit, c'est très sensible. Pas pour l'originalité de l'histoire, mais pour le propos, vraiment la sensibilité, super bien écrit. Puis on a tous connu ça, des histoires où on aimerait donc bien être en amour et que ça fonctionne pas comme on voudrait.
Ah, je sais pas de quoi tu parles.
On comprend très bien, Maryse, et ce qui lui arrive avec Marianne dans Tombée de la nuit. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Brian.
Je me peux plus.
Je me peux plus.
Je me peux plus!
On est à Je m'en peux plus. Alors, je sais pas. Je pense que je vais tout de suite aller voir. On l'a enregistré, on n'a pas le choix parce qu'elle n'était pas disponible. Mais Joël, t'as un petit coup de cœur pour nous autres.
Ah, un gros coup de cœur.
Un gros coup de
Moi,
cœur.
je retourne dans mes racines d'humoriste et je vous dis que mon gros coup de cœur du mois, ça a été le spectacle de Coco Béliveau qui a présenté sa première au Jésus et j'y étais. Et sincèrement, un immense coup de cœur. Coco Béliveau était déjà sur mon show queer plusieurs fois. Je l'ai vu travailler cette heure-là à coup de petits 15-20 minutes, mais vraiment. Je pourrais dire que le format de 1 heure lui va à merveille. Elle est déposée, elle est hilarante, elle assume là, son rythme. Des fois, elle va ralentir pour mieux nous amener dans une histoire, puis après ça, elle ne lâchera pas. Il fait du bien ce spectacle-là. Il est doux, il est inclusif et il est hilarant. Vraiment, c'est mon gros, gros, gros coup de cœur. J'ai aussi vu l'heure de Liliane Blanco-Binette. Même chose, elle, c'est. Il y a tellement de blagues back-à-back qu'à un moment donné, on est essoufflé tellement son énergie. Elle est high énergie. Fait que vraiment, très, très belle heure aussi pour Liliane. Mais un petit coup de cœur pour Coco Béliveau.
Merci. Bon, alors, ça, c'était le coup de cœur de Joël. Comme je vous dis, on a dû la préenregistrer parce qu'elle avait un conflit d'horaire pour l'enregistrement de Culture Queer. Brian, toi et moi, on a vu Pillion. Charles, est-ce que tu as vu ce film?
Je n'ai pas vu encore.
Pas encore. Alors, Brian, moi, je vais te laisser aller. C'est plus ton coup de cœur que le mien.
Ah, mais je sais pas si c'est un coup de cœur ou si c'est un coup de gueule. C'est un film, par contre, dont on sort, puis on continue d'y réfléchir, mais c'est tellement une proposition surprenante.
Rappelle-nous déjà qu'est-ce que c'est?
Alors, on va suivre l'histoire de Dudley, c'est-tu? Non, ça, c'est son nom. C'est son nom dans Harry Potter.
Ouais.
Dans Harry Potter. Colin cherche l'amour, il va tomber en amour avec un mystérieux motocycliste. Mais là, amorce avec lui une relation, mais qui est surprenante. Tout à coup, il débarque chez lui et faut qu'il dorme sur le plancher, qu'il s'occupe d'y faire à manger. Donc, on est vraiment dans une relation soumis-dominée. C'est quelque chose qu'on voit très peu. Et là, ben, on suit un peu avec eux cette histoire de relation-là. On ne sait pas si on est dans la caricature. On ne sait pas si c'est vrai. Moi, c'est un milieu que je connais peu, là. Donc, on est-tu dans la caricature? Y a-tu des exagérations? Ça se passe-tu vraiment comme ça? C'est particulier comme histoire, mais il y a tellement de choses à analyser par la suite. Oui, c'est surprenant. Oui, il y a des choses qui peut-être vont trop loin. Il y a au-delà de sa réaction, au-delà de leur couple à eux normal, il fréquente d'autres mondes avec eux. Par exemple, la rencontre avec ses parents, c'est particulier.
Moi,
Mais on.
j'ai accroché là. Puis je pense qu'on va le dire là. Alors, c'est une relation de dominant-dominé ou de maître de soumis. C'est correct. Tu sais, c'est crédible jusque-là. Je pense que le creux de l'histoire, c'est que Colin s'oublie complètement. Il n'impose pas ses limites. T'sais, il consent à être dominé, mais il n'impose pas ses limites. Et l'autre, clairement, exagère. Et là, il y a cette rencontre avec les parents. Je peux pas concevoir que des parents aussi acceptants et que quelqu'un qui se traite de nom, là. Moi, cette réunion de famille-là, c'est là où j'ai décroché du film et j'ai raccroché par la suite lorsque Colin, on va le dire, il se sépare de ce personnage qui est incapable de lui donner quelque amour que ce soit, c'est juste la domination, et il se réinscrit sur Grindr. Et là-dedans, il dit, ben là, voici ce que je suis soumis, tout ça, mais voici mes limites, j'ai besoin d'une journée de pause par semaine. Ça me réconcilie avec lui, puis tu vois qu'à la fin, il rencontre quelqu'un, OK, on dit vulgaire, il rencontre quelqu'un qui semble être plus ouvert et plus gentil envers lui. En tout cas, ça présage beaucoup mieux.
Mais c'est ça, c'est qu'on est dans ces espèces de limites de consentement-là, dans ce contexte particulier d'une relation dominant-soumis. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au roman d'Antoine Charbonneau de Metz, par
Ah
exemple.
oui.
On comprend pas toujours. Moi, en tout cas, je ne suis pas sûr que je comprends cette dynamique-là, mais d'y réfléchir et de voir justement jusqu'à où on peut aller ou ne pas. C'est surprenant et c'est ça. Ça nous fait réfléchir beaucoup malgré tout. Puis ça reste une proposition. C'est un film justement avec des acteurs connus. On est dans un film grand public, entre guillemets, ben, grand déploiement. C'est pas nécessairement pour un grand public. Donc, de voir ce thème-là se rendre sur un grand écran, c'est surprenant. Il y a beaucoup. Moi, on était là avec des amis. On allait là un peu par hasard en disant, oh, c'est un film qui peut nous concerner, là. Et on en a tous parlé plusieurs jours après de revenir sur différentes scènes, de réfléchir à tout ça. C'est un film qui est surprenant. Je ne sais pas si j'ai aimé, je ne sais pas si j'ai détesté ça, mais
Ça
ça
nous
fait
a pas
réfléchir.
laissé indifférents. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais te demander, toi, Charles, que tu as quand même une personne qui doit quand même frayer beaucoup les milieux culturels. Est-ce que tu as un petit coup de cœur à nous partager aujourd'hui?
Ouais, j'ai un coup de cœur, mais c'est pas une primeur, par
Non,
contre.
c'est
C'est pas une primeur du tout. Mais c'est mon roman préféré, en fait. C'est le roman qui s'appelle Closer de Dennis Cooper. C'est un roman fascinant, écrit avec une grande précision, une grande violence. Le genre de roman qui ne laisse personne indifférent, mais qui est certainement clivant comme votre film, où on suit un personnage, George Miles, qui est d'une beauté fascinante et aussi d'une grande passivité et qui sera l'objet de fascination de son entourage. Donc, chaque chapitre est le point de vue d'une personne de son entourage qui va essayer de creuser ce personnage-là, parfois même en allant dans des scènes de violence ou de mutilation. Voilà.
Ah, wow! Ben, c'est peut-être un roman à lire, Brian.
Ah, mais pas mille.
Ouais, mais et puis vous savez que bon, ça, Joël nous a parlé de ce film aussi, Montréal, ma belle. Moi, j'ai mentionné que j'ai beaucoup aimé le film. J'ai des petites réserves au niveau du jeu des acteurs, les enfants. C'est pas facile de trouver des bons enfants acteurs, j'avoue, et surtout dans les minorités aussi, c'est pas toujours évident, et des dirigés aussi. Mais c'est un beau film. On en a parlé tout à l'heure, que je vous recommande chaudement. Et là-dessus, ben moi, je vais remercier tout le monde. Alors, Charles, on répète pour Extérieure Nuit.
Ça commence le 17 mars au Théâtre Prospero.
Et ça joue jusqu'à quand?
À voir.
Ah oui, parce que on peut prolonger, hein, c'est
Et c'est
ça.
toujours possible.
Ah oui, Prospero, ça leur arrive de faire ça. Brian, de ton côté, qu'est-ce qui retient ton attention pour les ben, jusqu'au mois prochain?
Je vais vous ramener d'autres lectures. Il faut que je magasine tout ça, mais oui, puis continuer de consommer toute la culture autour de moi.
Ah
là.
Oui, ça fait du bien. Et puis notre culture queer, on l'aime aussi beaucoup. Ben, merci
oui.
beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde.
Merci. Merci.